Leçon 10. Pratiquez l'étude de passage. Objectif de la leçon 1. S'entraîner à appliquer les étapes de l'interprétation à des passages choisis de l'écriture. 2. Préparer un exposé ou une présentation orale d'une étude détaillée d'un passage de l'écriture. Introduction. Dans ce cours, nous avons étudié les étapes de l'interprétation biblique. Observation, interprétation et application. Nous avons appris à éviter les erreurs courantes faites dans l'interprétation biblique. Nous avons abordé des principes importants pour l'étude de l'écriture et nous avons pratiqué chaque étape. Dans cette leçon, nous passerons d'abord en revue l'ensemble du processus. Ensuite, l'ensemble de la classe étudiera des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament en suivant ce processus. Vous pratiquerez également ces compétences individuellement. Vous terminerez ensuite le projet de cours commencé à la leçon 1. Pour commencer, examinez l'image ci-dessous, l'interprétation de la Bible. Voir l'illustration dans le livre. 1. Leur ville, le message originel de l'écriture. 2. Le fleuve, différences historico-culturelles qui séparent notre monde du monde antique. 3. Le pont, le principe enseigné dans le texte. 4. La carte, relation avec le Nouveau Testament pour les passages de l'Ancien Testament. 5. Notre ville, l'application du principe dans notre monde. Les sections suivantes de cette leçon passent en revue l'ensemble du processus d'interprétation biblique. À chaque étape du processus d'interprétation, les interprètes doivent poser des questions qui les guideront vers des conclusions appropriées. Ces questions reposent sur les principes d'interprétation. Les questions qui devraient être posées à chaque étape du processus sont listées. Des exemples montrent comment utiliser ces questions et pourquoi elles sont utiles pour une interprétation correcte. L'ensemble des questions doit être considéré comme une boîte à outils pour l'interprétation. De même qu'un constructeur n'a pas nécessairement besoin d'utiliser tous ses outils pour un projet de construction particulier, toutes les questions présentées ici ne s'appliquent pas à chaque passage. Une question peut être considérée comme non pertinente pour un passage si sa réponse semble inexistante ou si elle semble n'apporter aucune contribution. Observation, comprendre le contexte historico-culturel. Auteur. Qui était l'auteur? Quel était son rôle? Quelle était sa relation avec les destinataires? 1 Timothée 5:20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. L'apôtre Paul, auteur de 1 Timothée, était le mentor de Timothée. C'était une instruction que Paul donnait à Timothée, qui était un jeune pasteur. Comprendre ces choses nous aide à réaliser que l'instruction de Paul n'est peut-être pas directement applicable à chaque chrétien. Public d'origine. Qui étaient-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Philémon a été écrit à un croyant particulier. Hébreux a été écrit aux croyants juifs persécutés. Circonstances. À quelle période de l'histoire du salut cette écriture a-t-elle été écrite? 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mon peuple désigne une nation particulière qui était le peuple de Dieu. La promesse « je guérirai son pays » n'est pas nécessairement directement applicable à une église. Quel était le contexte culturel? Si possible, utilisez un dictionnaire biblique pour étudier la culture d'origine. Cela vous permettra de comparer, contraster leur culture et la nôtre. 2 Corinthiens 13:12. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Saluer avec un saint baiser était une norme culturelle parmi les chrétiens de l'époque. Quels étaient les événements actuels? Quelle était la situation dans l'Église? Passage du Nouveau Testament uniquement. Observation, comprendre le contexte littéraire. Tenez compte des caractéristiques de la forme littéraire du livre et du passage. Quelle est la forme littéraire de ce livre ni passage? Quelles sont les caractéristiques de cette forme littéraire? Psaume 124:4-5, forme littéraire, poésie, caractéristiques, parallélisme, Apocalypse 12:3, forme littéraire, littérature apocalyptique, caractéristiques, les animaux sont symboliques. Observation, comprendre le thème du livre. Quel était le but de l'écrit? Cherchez ce que l'auteur souligne ou les points sur lesquels il a exprimé des inquiétudes, fournit des explications ou interpellez les lecteurs. 1 Corinthiens 7:1, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. 1 Corinthiens a été écrit en réponse à une lettre que l'église de Corinthe avait écrite à Paul, lui posant des questions. Quels semblent être les problèmes ou besoins des destinataires? 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Les divisions sont fréquemment évoquées tout au long de la lettre. Que disait l'auteur à ses destinataires ? Toutes les instructions données après les observations de l'auteur sont des indications claires de ses attentes. Elles indiquent comment nous devons appliquer le passage. Observation : déterminer le début et la fin du passage. Souvent, mais pas toujours, une division de chapitre marque la fin ou le début d'un passage. Occasionnellement, un chapitre entier constitue un seul passage. Parfois, les divisions de chapitres sont mal placées et ne devraient pas être utilisées comme division de passage. Soyez attentifs aux changements de sujet généralement signalés par des déclarations transitoires. Si vous essayez d'inclure trop d'éléments dans un passage, celui-ci n'aura pas de thème principal. Si vous n'en mettez pas assez, il ne contiendra pas une pensée complète. Quels versets sont inclus dans ce passage ? 2 Corinthiens 7, 1 « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés ». Ceci fait partie du passage trouvé à la fin du dernier chapitre, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Ésaïe 52, 13 à 15 est dans le même passage qu'Ésaïe 53. Observation : comprendre comment le passage se rapporte au livre. S'agit-il d'un récit qui s'inscrit dans un thème plus large ? Juges 17, 5. Ce Mica avait une maison de Dieu. Il fit un éphod et des théraphimes, et il consacra l'un de ses fils, qui lui servit de prêtre. Un homme avait son propre prêtre et ses idoles. Ce verset et le récit qui l'entoure, dans Juges 17 à 18, illustrent le thème général de Juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 17, 6, Juges 21, 25. Fournit-il une théologie pour une application ultérieure ? S'agit-il d'une application de passage précédent du livre ? Éphésiens 4 à 6 est principalement une application pratique de la théologie enseignée dans Éphésiens 1 à 3. Dans Éphésiens 4, le mot « donc » indique une transition entre l'enseignement de la théologie et l'enseignement de l'application pratique. Éphésiens 4, 1 « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Observation : remarquez la structure du passage. Certains éléments ne font-ils que préparer au message principal ? Marc 2, 2 « Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. » Ces détails préparent le lecteur à entendre parler de l'homme descendu du toit. Quels mots sont utilisés pour relier les idées de manière chronologique ? Utilisation répétée de « alors » dans Matthieu 24. Une question ou un problème est-il présenté ? Romains 6, 1 « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché ? Afin que la grâce abonde ?» Quels mots sont utilisés pour relier les idées de manière logique ? Utilisation répétée de pour dans Romains 6 pour montrer la séquence logique. La comparaison ou le contraste est-il utilisé ? Romains 6, 19 à 20. « Et de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. » Contraste entre l'esclavage passé, à l'impureté et à l'anarchie, et l'esclavage présent, à la justice. Y a-t-il une répétition ou une utilisation de termes similaires ? Romains 6, terme répété similaire, mort, mourir, mort, crucifié, enseveli, détruit. Tous ces termes sont des thèmes de finalité. Existe-t-il des listes ? 1 Timothée 4:12, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Quelles illustrations ou expressions figuratives le sont utilisées ? Romains 6 utilise la crucifixion comme une figure de style. Le moyen d'atteindre un objectif est-il décrit ? Romains 8, 13, « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Par l'esprit, moyen. Faites mourir les actions du corps, but, vous vivrez, but ultime. Des raisons sont-elles données pour une déclaration ou une réclamation ? Utilisation répétée de pourmenant à des explications d'affirmation dans Romains 6. Y a-t-il un point culminant ou un tournant ? C'est une question particulièrement pertinente pour les récits. Dans la parabole racontée dans Matthieu 21, 33 à 41, les versets 38 à 39 constituent le point culminant. La cause et l'effet sont-ils décrits ? Galates 5, 16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cause, marchez selon l'esprit. Effet, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une section sert-elle de résumé de ce qui précède ou suit ? Juges 2, 11 à 23 résume le livre de Juges. Éphésiens 5, un résume. Éphésiens 4, 25 à 32. La section cite-t-elle ou fait-elle référence à une autre écriture ? Les auteurs du Nouveau Testament ont fréquemment utilisé des citations ou des illustrations de l'Ancien Testament. Romains 12, 1 « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans ce verset, le mot « sacrifice » est une image qui fait référence à quelque chose dans l'Ancien Testament. Observation, remarquez et étudiez les termes importants. Quels sont les termes importants dans le passage? Termes importants de 1 Corinthiens 2, 14 à 15, l'homme animal, l'homme spirituel. Termes importants de Romains 8, chair, esprit. Que signifie-t-il dans ce contexte? Faites une étude de mots sur chacun. Observation, examinez chaque déclaration. Qu'est-ce que cela signifie? Paraphrasez ce que dit réellement la déclaration. Pourquoi est-elle incluse et pourquoi est-elle positionnée ici? Réfléchissez à la différence que cela ferait si cette déclaration n'était pas là. Interprétation, résumez le message. Maintenant que vous avez soigneusement observé les détails du verset ou du passage, résumez le message de l'auteur à l'intention du public d'origine. Le résumé d'un verset peut être une seule phrase. Le résumé d'un passage sera plusieurs phrases, voire plusieurs paragraphes. L'objectif de cette étape est simplement d'exprimer ce que l'auteur voulait dire au premier lecteur. Ce n'est pas le moment d'être imaginatif et créatif. Vous pouvez être créatif en élaborant des moyens de communiquer le message lors de la prédication ou de l'enseignement. Mais pour l'instant, vous cherchez à trouver le sens de l'écriture. Ce sens devrait venir du texte biblique et non de votre imagination. Que disait l'auteur au premier lecteur visé? 1 Corinthiens 1, 10 à 13 pourrait se résumer ainsi. Soyez unis dans vos doctrines et dans votre communion et ne vous divisez pas en groupes opposés. J'ai entendu dire par la famille de Chloé que vous vous disputez. Vous choisissez de suivre différents dirigeants, mais seul Christ est mort pour vous. Vérifiez votre résumé. Réfléchissez aux questions suivantes avec des éléments tirés des observations que vous avez faites. Ai-je suffisamment réfléchi à la situation originelle de l'écrit? Quelles semblent être les préoccupations et les objectifs de l'auteur en écrivant ce passage? Mon interprétation du passage correspond-elle au thème du livre? Mon interprétation donne-t-elle au passage son rôle approprié dans le livre? L'accent mis sur la structure du passage est-il cohérent avec mon résumé? Le sens de chaque déclaration dans le passage soutient-il mon résumé? Est-ce que j'interprète correctement les termes importants utilisés par l'auteur? Interprétation, énoncer le principe. Dans le passage, trouvez un principe qui s'applique à tous les temps et à tous les peuples. Un passage peut enseigner plusieurs principes, mais pour la pratique, choisissez-en un. Énoncez-le en une phrase, l'un des principes nous trouvés dans Éphésiens 4, 25, « Dites la vérité dans toute communication ». Vérifiez ensuite que votre principe reflète fidèlement le message original du texte. Ce principe est-il clairement enseigné dans le texte? Ce principe est-il cohérent avec le reste de l'écriture? Ce principe est-il vrai pour tous les temps et pour tous les peuples? Reliez le principe à une autre vérité. Quelle vérité connexe est révélée ailleurs dans l'écriture? Comment cette vérité enrichit-elle notre connaissance? Mon interprétation pourrait-elle être corrigée en considérant l'écriture dans son ensemble? Cette vérité semble-t-elle contredire un autre passage? Si oui, peuvent-ils être conciliés? Application. Faire une application contemporaine. Le principe que vous avez trouvé peut être appliqué de diverses manières. Faites une application contemporaine spécifique. À quelle situation moderne spécifique cette vérité pourrait-elle être appliquée? Quand, où et pour qui les déclarations sont-elles pertinentes? Comment la vérité pourrait-elle être appliquée en action aussi bien qu'en concept? Si je prenais vraiment le passage au sérieux, quelle différence cela entraînerait-il dans ma vie? Demandez au Saint-Esprit de vous guider en vivant la parole de Dieu au quotidien. Pratiquez l'interprétation des lettres. Quand nous interprétons les lettres du Nouveau Testament, nous commençons par observer la lettre autant que possible, puis nous l'étudions pour cerner son message, et enfin nous appliquons les principes à notre monde. Ce voyage d'interprétation nous fait passer du monde des destinataires originaux à celui du lecteur moderne. Pratiquer l'interprétation de la loi de l'Ancien Testament. Lorsque nous interprétons une loi de l'Ancien Testament, nous devons d'abord comprendre ce qu'elle signifiait pour le public d'origine. Nous devons tenir compte des différences entre leur situation et la nôtre, notamment celles liées au fait que nous vivons sous une nouvelle alliance. Dans la loi de l'Ancien Testament, nous devons discerner le principe qui s'applique à tous les peuples et à toutes les époques. Ensuite, nous pouvons appliquer ce principe à nos vies.